cette année 2009-2010, un lundi par mois. On pouvait se rendre à Aubervilliers, parfois au lycée Le Corbusier, parfois au théâtre de la Commune, afin de suivre la conférence d'un professeur du Collège de France. En effet, au terme d'un accord qui est intervenu en 2006 entre le Collège de France et la mairie d'Aubervilliers, quiconque le souhaitait pouvait venir écouter un des très savants professeurs du Collège de France proposer de façon vivante et claire une intervention destinée à de jeunes élèves en compagnie de leurs professeurs et à un large public intéressé à connaître et à comprendre le monde qui nous entoure. Cette année, le thème de la réflexion choisie était « Les grandes civilisations ». L'intitulé de ces conférences propose donc de nous faire connaître les dispositifs les plus variés que les peuples se sont donnés pour extraire l'humanité de sa barbarie, mais également les diverses manières dont ces dispositifs ont été interprétés, repris, récupérés, réorchestrés au fil du temps. Le but de ces rencontres est, comme l'explique Carlo Ossola, lui-même professeur au Collège de France, de délocaliser sous forme de conférences thématiques quelques-uns des enseignements du Collège afin d'ouvrir des espaces de partage sur des thèmes de portée universelle et aptes à mettre en dialogue les différents savoirs et sensibilités culturelles présents dans le monde d'aujourd'hui. France Culture a donc décidé de diffuser chaque samedi et dimanche soir du mois d'août l'ensemble de ces manifestations. Que veut dire le mot romain quand on parle de l'Empire romain ? De qui et de quoi au juste Rome est-il le nom ? Nous avons la fâcheuse habitude de rabattre l'Antiquité sur notre époque et de l'interpréter en fonction de nos propres critères. Bref, de commettre ce qu'on appelle des anachronismes. C'est pourquoi John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique au Collège de France, nous propose ici de revisiter la civilisation romaine à partir des faits et des savoirs certains. Il s'agit bien, dans la vaste fresque que John Shedd nous propose, de prendre la mesure de l'altérité de Rome, qui sut à la fois récupérer les mœurs et les cultures des autres et en inventer une qui lui fut propre. Écoutez.
Qu'est-ce que c'est Rome ? Quand je dis Rome, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la partie du monde sur laquelle s'est développée la civilisation de Rome ? Et quand tout cela ? L'histoire de Rome est très longue, elle dure plus de 1000 ans. D'après la date classique, Rome fut fondée en 753 avant Jésus-Christ, mais en fait, le site est occupé depuis au moins le Xe siècle avant notre ère. En Occident, le pouvoir de Rome s'effondre en 476 après notre ère, mais en pays grec, à Constantinople, l'Empire continue jusqu'à la chute de la ville en 1453, quand Constantinople devint l'une des capitales de l'Empire ottoman. Vous vous doutez bien qu'une aussi longue période, 753-1453, n'a pas été une succession de siècles de paix et de bonheur. Rome a énormément évolué et changé durant ces centaines d'années, et le monde avec elle. Et cela au milieu de catastrophes de toute nature, surtout militaires. Au départ se trouve ce que les historiens appellent l'invention des cités, de petits états gouvernés non pas par des rois, mais collectivement par l'ensemble des citoyens. Ce mouvement part en Italie du Sud, partie de Grèce, et se répandit, pour ce qui nous intéresse, dans l'Italie à partir du Sud, de la Botte, où s'installèrent peu à peu des cités de colons grecs, et à partir du nord, cette fois-ci, où les Étrusques, grands navigateurs, adoptèrent progressivement la culture politique, littéraire et quotidienne des Grecs. Les Étrusques influencèrent toute l'Italie centrale entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère. De ce fait, et c'est sous leur influence culturelle que Rome, une bourgade parmi d'autres des collines du Latium, devint un État soumis à un roi. Et les habitants de Rome, qui étaient en partie des Étrusques à cette date, adoptèrent des coutumes politiques et sociales, disons en gros de type grec, qui leur permirent de se développer de tous les points de vue. À la fin du VIe siècle, avant notre ère, l'aristocratie romaine fit tomber les tyrans étrusques, les rois étrusques, et fonda le régime qui devint typique pour Rome, la République. Res publica, chose du peuple, publicus étant l'adjectif du terme populus, peuple. L'État était l'affaire des citoyens. Vous reconnaissez là un terme qui a eu une fortune immense, comme vocable, mais aussi comme conception même de la vie en communauté. Combien de nos États modernes s'appellent encore aujourd'hui république, tout modestement. Je reviendrai sur les caractéristiques de ce régime. Continuons pour l'instant la présentation générale de ce qu'il convient d'appeler Rome. Cette république faisait comme toutes les autres communautés d'Italie et du monde antique, elle faisait la guerre à ses voisins, soit pour s'emparer de leurs terres, soit plus simplement pour rasier leurs granges, leurs troupeaux et leurs richesses. Mais peu à peu, Rome commença à regarder plus loin. Était-ce parce que ses institutions politiques lui accordaient une efficacité plus grande ou parce que son site de plaine était plus favorable que les austères bourgades de montagne de ses voisins? Toujours est-il qu'un nombre croissant de voisins s'établit dans cette ville de plaine qui était bien reliée par le Tibre à l'intérieur et à la mer. Il est inutile de spéculer sur les raisons de ce développement. Le fait est que dès la fin du VIe siècle avant notre ère, Rome était plus grande que ses voisines et peu à peu, elle les soumit. Et désormais, un mouvement inexorable était lancé. Rome, qui était à la tête à cette époque d'une trentaine de cités alliées du Latium, le Lazio actuel, construisit une machine de guerre assez redoutable qui soumit les voisins étrusques, sabins et latins. S'il faut y voir un aspect de la civilisation romaine, c'est moins parce que les Romains étaient, comme leurs voisins, une bande de soudards et de pillards relativement rudes et particulièrement redoutables, mais qu'ils avaient, depuis une époque déjà ancienne, une perspective politique qui dépassait le cadre de leur État. Ils se voyaient comme les chefs d'une coalition de cités. Vous connaissez sans doute l'un des grands mythes de Rome. Leur nation aurait été fondée, après la guerre de Troie, par Énée, le fils du roi Priam. Cette façon de se raccrocher à la célèbre histoire d'Hélène, d'Achille, d'Ulysse et de leurs compagnons, partis pour détruire la ville de Troie, en Turquie actuelle, pour récupérer la belle Hélène, n'est pas original. Toute cité méditerranéenne du monde antique qui se prenait un peu au sérieux se souvenait, croyait se souvenir que ses fondateurs avaient d'une façon ou d'une autre participé à cette célèbre guerre chantée par Homère ou avait été fondée par l'un des héros égarés sur le chemin de son retour après la victoire. Ce qui est original dans le cas de Rome, c'était qu'ils utilisèrent ce thème légendaire pour dire à tous qu'il n'était pas un peuple originaire de Rome, de cet endroit, un peuple autochtone, c'est-à-dire installé à Rome depuis le début des temps. Cette légende affirmait qu'elle elle aussi, finalement, n'était pas originaire de Rome, que les Romains étaient un peuple d'immigrés venus de l'Est au début de l'histoire et que Rome ne se trouvait à son aise que dans l'alliance avec les autres peuples, plus exactement à leur tête. Un beau discours, évidemment, quand on dispose d'innombrables légions. Mais vous verrez que ce discours, typiquement romain, est un élément clé de l'héritage romain. Donc, dans un premier temps, l'alliance présidée par Rome soumit l'Italie centrale. Ensuite, la machine s'emballa. Pendant qu'elle s'attaquait aux zones méridionales, les redoutables peuples samnites des Abruzes et aussi aux colonies grecques du sud, elle commença à rencontrer sur son chemin une autre puissance impérialiste, la cité de Carthage, dont l'empire s'étendait de la Tunisie actuelle aux côtes de l'Espagne, en passant par la Sicile et la Sardaigne. Les conflits avec les Carthaginois naquirent justement à propos de la possession de la Sicile et de la Sardaigne. Deux guerres terribles, les guerres puniques, se succédèrent entre les années 260 et 202 avant notre ère. Des guerres terribles, comme je disais, qui s'achevèrent par la prise de Carthage par Rome. Pendant ces conflits, surtout le second, à la fin du IIIe siècle, Rome fut souvent au bord du précipice, sous les coups de boutoir du général carthaginois Hannibal, qui avait envahi l'Italie. Mais rien n'y fit. Malgré son génie militaire et la qualité de ses troupes, Hannibal fut battu par la démographie de l'alliance romaine. C'est à partir de cette date que l'on commença à constater que Rome était presque imbattable, parce que son alliance, qui avait cru très nettement depuis le 5e siècle avant notre ère, pouvait mobiliser en peu de temps de nouvelles armées pour remplacer celles qui avaient sombré dans une catastrophe. Une redoutable machine de guerre apparut ainsi en Méditerranée. Et ce furent les deux guerres puniques qui révélèrent aux Romains eux-mêmes, et puis au monde grec, les capacités de cette cité d'Italie. Rome ne fut pas longue à comprendre. Rapidement, elle s'immissa dans les affaires des cités grecques, vers l'est, détruisit ce qui resta en Grèce et en Asie mineure de l'Empire macédonien et s'implanta durablement dans cette partie du monde. Et rapidement, l'empire du peuple romain s'étendit de l'Espagne jusqu'à l'Hellespont. Certes, toutes les régions n'étaient pas pacifiées et soumises, mais durant les deux siècles suivants, tous les pays qui n'étaient pas encore tombés sous le pouvoir romain furent progressivement conquis. L'Espagne, la Gaule, l'ex-Yougoslavie, la Syrie, et en 30 avant Jésus-Christ, l'Égypte, dernier royaume de l'ancien empire d'Alexandre. Le soulèvement de Carthage au milieu du IIe siècle, qui se traduisit par la Troisième Guerre punique, et se solda par la destruction complète de Carthage, fut rasée au sol, n'est-ce pas, et on mit du sel dessus, donna également une partie de l'Afrique du Nord au peuple romain. Et peu à peu, son pouvoir s'étendit jusqu'aux confins du Maroc, qui n'entra dans l'Empire qu'au début de notre ère. Les guerres civiles qui secouèrent Rome entre les années 130 et 30 avant Jésus-Christ, on ne faisait pas dans le détail à l'époque, achevèrent de soumettre ce qui ne l'était pas encore, car les armées romaines parcoururent le monde et écrasaient tous ceux qui s'opposaient à elles, même si elles n'étaient pas venues pour conquérir, mais simplement pour régler des questions de politique intérieure. Ainsi, on peut dire qu'au début de notre ère, le monde connu d'alors était unifié. L'empire du peuple romain allait désormais de Gibraltar à l'ouest jusqu'à la mer Noire à l'est, de la Manche au nord jusqu'au Sahara et à l'Euphrate au sud. Le siècle suivant, les Romains soumirent aussi une partie de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Roumanie, ainsi que l'Angleterre jusqu'au seuil de l'Écosse et au sud, ce qu'on appelait à l'époque l'Arabie. C'est vers 120 après notre ère que cet empire atteint sa plus grande extension et touche les limites naturelles de sa puissance. Au nord, les Romains n'ont jamais pu s'installer durablement au-delà du Rhin et du Danube. Au sud, l'Euphrate sera toujours une limite infranchissable pour eux. Voilà donc le cadre dans lequel s'inscrit la civilisation romaine. Vous voyez tout de suite pourquoi nous sommes tous des Romains. Si vous ne provenez pas d'au-delà de ces limites au pouvoir romain, vous êtes de lointaine origine romaine. Nous parlons aujourd'hui d'Union européenne ou d'Union méditerranéenne, politiquement et culturellement. Vous voyez que tout cela existait il y a 2000 ans. Et si vous avez étudié l'histoire médiévale et moderne, vous savez que les nations qui vivaient dans les limites de l'ancien empire romain ont régulièrement essayé, quand elles se sentaient assez fortes, de reconquérir l'Empire, de réaliser à nouveau l'unité des pays méditerranéens et de ceux du Nord. Revenons aux Romains. En dépit de tous les malheurs que ces guerres incessantes ont entraînés pour les Romains eux-mêmes et pour ceux qu'ils soumettaient ou exterminaient, un très grand bienfait en résultat auquel les Romains n'avaient certainement pas pensé de prime abord. Ou s'ils l'avaient fait, c'était plutôt pour les besoins de leur administration et pas du tout pour les sujets de leur empire. Ils avaient en fait réalisé l'unité du monde. Une seule puissance dominait désormais un énorme espace et assurait la paix entre ses limites. Et comme il n'était pas du tout dans la mentalité des Romains, en tout cas dans celle des anciens, et en tout cas dans celle des Romains, de fermer la Méditerranée tant que les voyageurs respectaient l'ordre établi et la paix, la circulation devint possible d'un bout à l'autre de la Méditerranée. De mémoire d'homme, cela n'avait jamais été le cas. Et cette ouverture du monde, cette sécurité du monde qu'on appelle la paix romaine, fut un événement de portée historique. Pendant au moins 3 siècles, 4 siècles, disons, le monde sera complètement ouvert. Les voyageurs de toutes sortes, des commerçants, des militaires, des fonctionnaires, des touristes, des prêcheurs, des charlatans et des prophètes, tout le monde voyageait sans limite dans le monde connu d'alors. Ce n'est qu'à partir de la fin du IVe siècle de notre ère et au Ve que la puissance romaine commença peu à peu à s'effondrer et à ce moment-là, l'espace ouvert aux voyages tranquilles se réduisit très rapidement. Au VIe siècle, c'en était fini et la paix romaine n'était plus qu'un souvenir nostalgique. Il faudra plus d'un millénaire pour qu'on puisse à nouveau voyager sans risque majeur d'un bout à l'autre du bassin de la Méditerranée. Peut-être l'un des éléments les plus importants de la civilisation romaine tient dans cette conséquence inattendue de 5 siècles de brutalité et de massacres réciproques entre tous les habitants de ce vaste espace. Ce bienfait général, qui eut des conséquences que ne s'étaient pas imaginées les Romains et les habitants du monde antique, permit en tout cas à la civilisation de Rome de se diffuser dans le monde entier. L'une des caractéristiques de la civilisation romaine, et au-delà de bon nombre de pays de la Méditerranée antique, était que l'individu vivait en cité. L'individu était un citoyen, un civis, porteur de droits et de devoirs, et non le sujet d'un maître absolu. Ces cités correspondent à ce que nous appellerions les États. Il y en avait environ 2 à 3 000 en Méditerranée antique. Leur horizon politique était celui d'un État relativement petit où les citoyens assumaient de ce fait beaucoup de responsabilités. Ceci nous permet de comprendre aussi tout de suite que Rome n'était pas un État absolu, comme on l'imagine souvent. Malgré les excès commis par certains empereurs pittoresques, Rome n'était pas un État fasciste, ultra-centralisé, dont le citoyen était le sujet, l'esclave. Et cela pour la simple raison que Rome n'avait absolument pas les moyens de gouverner le monde directement, le monde entier. C'était en fait le pouvoir de Rome, pour vous l'imaginer, c'était comme si Paris et l'Île-de-France gouvernaient le monde entier, cet énorme espace, avec leurs institutions municipales. Même sous l'Empire romain, donc à partir du début de notre ère, au moment où la centralisation était la plus forte, le tissu politique de cet empire était en fait composé d'une nuée de cités dont la seule politique extérieure, pour ainsi dire, et la sécurité étaient aux mains du pouvoir romain, plus quelques richesses. Qu'est-ce qu'une cité ? Une cité, je l'ai dit, était une ville, siège des autorités et un territoire, comme sur cette vignette qui vous montre une petite cité de ce type. La plupart des cités n'étaient pas bien grandes, sauf quand les territoires nouvellement conquis, comme en Gaule par exemple, permettaient d'avoir des cités généralement assez étendues. C'est ce genre de ville et son territoire qui constituait l'horizon de vie de la plupart des habitants du monde romain, en Italie comme dans les provinces. C'est là que les individus étaient inscrits dans l'état civil, payaient leurs impôts, votaient, se faisaient élire, déposaient des plaintes en justice et étaient jugés. Certes, les Romains exploitaient les richesses des cités conquises de façon scandaleuse au cours des 2 derniers siècles avant notre ère, de manière plus modérée et raisonnable ensuite. Comme disait l'empereur Tibère au début de notre ère, un bon berger tond ses moutons, mais il ne les écorche pas. L'harmonisation relative de cette multitude de coutumes et de règles mit plusieurs siècles à se faire et il y eut, comme vous imaginez, de nombreuses guerres et souffrances. À partir du début de notre ère, cependant, ce monde était en voie d'unification. Il ne s'agissait absolument pas d'une uniformisation des coutumes, mais plutôt de l'établissement d'un certain nombre de principes de base qui s'appliquaient à tous. Ainsi, les habitants de ces cités étaient-ils avant tout citoyens de leur cité locale, avant d'être éventuellement romains. C'est par là, par leur origine locale, qu'ils étaient citoyens romains aussi. Et cette origine, ils ne la perdaient jamais. Si vous voyagiez et vous établissiez à des milliers de kilomètres de votre cité d'origine, vous pouviez devenir éventuellement résident dans une autre cité, incola, comme on disait à l'époque, nous dirions aujourd'hui, vous pouviez avoir une carte de séjour, mais votre origine sera toujours enracinée dans la cité, romaine ou non, où vous êtes né et où vous avez reçu la citoyenneté romaine. Donc des milliers de cités. Ce qui implique, une fois de plus, que Rome n'exerçait pas un pouvoir absolu sur toutes ses cités. Elle n'en avait, je le répète, absolument pas les moyens. Pour un habitant de l'Empire, l'essentiel de ses relations avec le pouvoir, avec un pouvoir politique, se passait en fait sur le pouvoir local, avec les autorités locales, avec monsieur le maire, et pas du tout avec l'empereur, le gouverneur, ou que je sache. Il ne voyait souvent jamais le pouvoir de Rome. J'ai dit tout à l'heure que la légende des origines troyennes des Romains jouait un grand rôle idéologique dans ce monde. Elle devait notamment proclamer dans le monde entier que Rome n'était pas un pouvoir jaloux et impérialiste de l'Ouest, mais qu'elle était une cité parmi d'autres. elle leur ressemblait en raison de cette vieille parenté qui remontait aux origines de l'histoire. Revenons aux cités, qui sont l'un des éléments constitutifs de la civilisation romaine. Une cité est donc un microcosme politique, dans ses principes, venus, comme je l'ai dit, du monde grec vers le 7e, 6e siècle avant notre ère, était inscrit le principe de la décision collective. Un dirigeant, un magistrat, comme disaient les anciens, était élu par les citoyens qui formaient ensemble le peuple. Une loi était élaborée par les magistrats et un conseil, mais elle était votée par le peuple. Ne parlons pas trop vite de démocratie, car les cités du monde antique, même en pays grec, ne ressemblaient pas du tout à nos démocraties. Les modernes ont souvent idéalisé certaines périodes de l'histoire d'Athènes, par exemple, comme le début de la démocratie. On l'a même fêté son 2500e anniversaire il y a quelque temps. Certes, les Athéniens ont vécu pendant 3 ou 4 générations sous un régime démocratique, mais au prix de l'impérialisme, de la soumission et de l'exploitation d'autres cités grecques. La majeure partie de l'histoire athénienne ne fut pas celle d'une démocratie, pas du tout. Et Rome a vécu, elle aussi, entre 500 avant notre ère et le début de notre ère, sous le régime dit de la République. Pendant cette période, les institutions républicaines étaient l'Assemblée du peuple, les magistrats et un Sénat. Enfin, on a l'impression d'être chez nous. Mais ces belles institutions étaient aussi, je l'ai déjà dit, une austère et terrible machine de guerre qui soumit progressivement le monde entier et l'exploitait de façon souvent inhumaine. Bref, tout n'était pas beau dans ces démocraties et dans ces républiques antiques dans lesquelles, ne l'oublions pas, l'esclavage était un fait naturel qui n'était jamais mis en question pendant les 2000 ans que dura l'Antiquité grecque et romaine, et dans lesquelles les femmes n'avaient pratiquement aucun droit. Néanmoins, c'est un fait que notre vocabulaire politique remonte à ces cités, à ces républiques, à leurs assemblées, à leurs magistrats, à leurs sénateurs que nous saluons. Et vous voyez, nous sommes, de ce point de vue, encore tous des Romains. Toutefois, même si, par exemple, les révolutionnaires français s'en sont indéniablement inspirés, il y a loin de ces régimes à nos régimes démocratiques ou républicains modernes. Mais c'est véritablement un héritage. Pour nous, modernes, ce sont ces cités-là, plus que les royaumes du Moyen-Âge ou des temps modernes, qui constituent l'idéal et la référence politique. Il est donc exact de considérer que la cité, comme idéal de vie communautaire et de liberté individuelle, est un des traits marquants de la civilisation romaine. C'est par les Romains qu'elle a été transmise au monde. Si les Romains avaient une haine politique, c'était celle de la royauté, de la tyrannie, du pouvoir absolu, qui asservissait les citoyens. Jules César a été assassiné, comme vous le savez, en pleine gloire, parce qu'on le soupçonnait seulement d'aspirer à la royauté. Même si la cité de Rome elle-même a évolué peu à peu vers un appareil complexe de gouvernement du monde, où les institutions populaires de la République fonctionnaient désormais de façon un peu plus autoritaire que dans les autres cités du monde romain, il ne pouvait être question d'avoir un roi, une monarchie à Rome, un chef absolu. Ce n'est que pendant les 2 derniers siècles de l'Empire d'Occident, entre 300 et 500 après Jésus-Christ, que des régimes plus autoritaires virent le jour dans l'urgence des invasions barbares. J'ai dit que la cité était une invention grecque qui s'est progressivement diffusée dans le monde. Elle a été renforcée par le système politique romain qui reposait sur la collaboration de toutes les cités du monde. De ce fait, le monde romain a joui, à partir du début de notre ère, pendant les 3 ou 4 siècles de la paix romaine, d'une relative liberté. La meilleure preuve que ce régime bénéficiait de l'adhésion de facto des peuples de l'Empire est que, malgré des soulèvements limités, les Romains utilisaient très peu de soldats pour assurer la sécurité et la protection de ce gigantesque ensemble. Disons-nous simplement que pour garder l'énorme empire que je vous ai montré, avec sa population, voilà encore une fois, d'environ 50 millions d'habitants, l'État romain avait à sa disposition au grand maximum 360 000 soldats, dont souvent une grande partie était d'ailleurs employée pour conquérir de nouveaux territoires ou pour réprimer une révolte locale ou pour construire des routes. C'est bien moins que Louis XIV n'en avait pour défendre la France, dans les 450 000, je crois. Par exemple, pour garder le territoire correspondant à la France actuelle, Rome avait une seule légion, la 8e Auguste, stationnée à Strasbourg avec ses troupes d'appui d'origine étrangère, soit l'équivalent de 10 000 hommes environ. Et encore, ces troupes faisaient-elles plutôt partie des troupes de frontières installées sur le Rhin pour parer à d'éventuelles incursions de Germains? Il y avait aussi encore 600 hommes à Lyon, où l'on frappait monnaie à une certaine époque. Mais c'est tout. Le reste, c'était des gardes champêtres et des polices municipales, comme nous dirions. Ces chiffres parlent tout seuls. Il y avait une réelle acceptation de ce régime, de cette civilisation de gouvernement romaine, même si beaucoup savaient sans doute que la conquête avait été très dure et qu'ils avaient perdu des membres dans la famille, de la famille dans l'aventure, et qu'on pouvait aussi finalement se soulever facilement, parce que où étaient les légions? Mais ils le faisaient très rarement. Personne n'ignorait en effet que les Romains mettraient peut-être un certain temps pour concentrer des troupes et venir voir sur place, mais qu'ensuite, on savait que les choses deviendraient assez terribles. Il est indéniable que quelques siècles de victoires et de massacres inspiraient une crainte incontestable de l'armée romaine, même quand elle était au loin. Ajoutons encore une autre précision souvent mal comprise. Le monde antique en général, et donc aussi le monde romain, est un monde très inégal et marqué par la différence. Toutes les cités-États, par exemple, n'ont pas le même statut, même si elles sont peuplées de citoyens romains. Il y a des inégalités de statut. Ainsi, une colonie romaine, une colonie à Rome, n'est pas du tout un pays, c'est une cité fondée par des colons romains. Une colonie romaine était une cité qui était comme un quartier de Rome installé en Italie ou dans l'Empire. À côté, il y avait des cités qu'on appelait municipes, d'où vient notre terme municipal, qui ont d'un côté moins de privilèges juridiques et de prestige que les colonies, qui sont un quartier de Rome, littéralement. De l'autre, elles ont aussi plus d'indépendance institutionnelle, car les constitutions des colonies étaient inspirées des institutions de Rome même. Mais même entre les colonies, il existait des différences. Certaines grandes colonies, comme Carthage ou Trève, fondées au début de notre ère, Carthage a été refondée par Auguste, bénéficiaient de ce que les Romains appelaient le droit italique. Autrement dit, elles étaient considérées comme situées par une fiction juridique en Italie, ce qui voulait dire qu'elles ne payaient pas d'impôts, parce que les Italiens, les cités d'Italie, ne payaient pas d'impôts. Et puis autour de ces cités privilégiées, il y avait une foule de cités romaines moins privilégiées et aussi beaucoup de cités étrangères qui continuaient de vivre selon leurs propres institutions et se contentaient de collecter l'impôt et de maintenir l'ordre dans le cadre de l'Empire. Il ne faut donc pas voir le monde romain comme un empire monolithique, mais plutôt comme une mosaïque de cités possédant toute leur originalité et leurs coutumes. Cela aussi, c'est un aspect de la civilisation de Rome. On n'a jamais soumis et exterminé tout cela. On l'a laissé vivre tranquillement. C'est là un des aspects de la civilisation de Rome et un héritage de la civilisation des cités dont Rome faisait partie et qu'elle a diffusé dans le monde, notamment dans nos régions de barbares où rien de tel n'existait auparavant. Un dernier mot sur cette mosaïque. Nous parlons toujours de Romains, les Romains, les Romains. L'armée romaine, l'administration romaine, le pouvoir romain. Rien ne peut plus induire en erreur. Qu'est-ce qu'un Romain en définitive? Dès le IIIe siècle avant notre ère, l'armée romaine était composée pour moitié d'étrangers, de contingents de soldats fournis par les cités d'Italie, en vertu de traités. Et au début de l'Empire, au début de notre ère, les légions elles-mêmes, c'est-à-dire l'armée proprement nationale romaine, étaient recrutées majoritairement en Italie centrale et en Italie du Nord, c'est-à-dire en fait hors des terres anciennement romaines. Et bientôt, il y aura des légionnaires originaires des cités romaines des provinces, de Gaule Narbonnaise, France du Sud, de Gaule de l'intérieur, de Germanie, d'Asie mineure, d'Afrique ou des pays danubiens. Les alliés aussi, ces troupes de soutien, seront désormais recrutés dans l'ensemble du monde romain. Où sont les Romains? Où est l'armée romaine? Les alliés, donc, je l'ai dit, l'administration elle-même, romaine, elle aussi, n'était pas énorme. Elle était sans doute, vous vous en doutez, moins importante que l'administration française actuelle, ce qui vous démontre à nouveau qu'il lui était impossible de gouverner l'Empire sans la participation des autres cités de l'Empire. Mais, ce que je voulais dire, cette administration se recrutait également hors de Rome et d'Italie. Où était l'administration romaine? C'était des Africains, des Syriens, des Roumains, enfin, pour parler en termes actuels, qui le faisaient. Et enfin, les tenants du pouvoir eux-mêmes étaient progressivement recrutés hors d'Italie et de Rome. À la fin du 1er siècle de notre ère, le personnel politique, les sénateurs par exemple, ne contenait pratiquement plus de descendants des grandes familles originaires de Rome. Et pour prendre un seul exemple, les empereurs Flavien, Vespasien, Titus, Domitien, étaient originaires de Sabine en Italie. Donc un premier saut. Trajan et Adrien étaient des Romains nés en Espagne. L'ancêtre d'Antonin le Pieux et de Marc Aurèle donc, venait de Nîmes. Les Sévères, Septime Sévère, 193 après notre ère, étaient originaires de Lepsis Magna, en Libye. Et l'épouse de Septime Sévère venait de Syrie. Où sont les empereurs romains ? Constantin vint des pays danubiens. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, le terme romain doit être employé avec beaucoup de précautions suivant l'époque, car il sert surtout à désigner quelqu'un qui vit et agit dans les limites du monde romain, pas un peuple précis. Les Romains, c'est nous, c'est nos ancêtres. De même que tous les Romains n'étaient pas Romains, comme nous venons de le voir, la culture du monde romain n'était pas seulement romaine. Le pouvoir central romain ne s'est jamais opposé aux cultures locales tant qu'elles ne troublaient pas l'ordre public et ne menaçaient pas le pouvoir romain. Mais au-delà, la civilisation romaine elle-même était biculturelle avant tout. Tant que l'histoire de Rome s'est déroulée en Italie, un nombre croissant de Romains et d'alliés des Romains partageaient avec leur propre culture italique celle des Romains. À partir du IIIe siècle avant notre ère, quand Rome devient en quelques années une puissance mondiale, méditerranéenne, c'est-à-dire mondiale, c'était le monde connu de l'Ouest de l'époque, elle s'est faite biculturelle. L'Italie est progressivement oubliée par les Romains et c'est la culture grecque que l'élite romaine adopte. Vers 200 avant notre ère, la grande culture mondiale est en effet celle des Grecs. Prétendait désormais à la primauté dans le monde, les Romains s'approprient cette culture en passe de devenir universelle. Et à partir de cette date, les Romains éduqués sont tous bilingues et biculturels. Ce n'est pas une nouveauté absolue. Rome avait toujours eu des relations avec la culture grecque. Je vous l'ai dit, au cours des premiers siècles de son existence, c'est de façon organique, pour ainsi dire, que des éléments de la culture grecque remontèrent à travers l'Italie et notamment l'Étrurie jusqu'à Rome, à partir des colonies grecques de l'Italie du Sud et de Sicile. C'est ainsi que les Romains découvrirent le monde des cités, qu'ils adoptèrent les manières de table originaires des pays grecs, notamment le banquet de boissons faisant suite au banquet de viande. Un repas romain avait deux services. Un premier service de viande, de pain, où on ne buvait pas, et puis un deuxième service où on enlevait tout et on faisait venir les coupes et le vin. Et puis alors, on s'occupait sérieusement de ce deuxième banquet du symposium, le fait de boire ensemble pour conclure le banquet. Mais à la différence des Grecs, chez les Étrusques et les Romains, on était quand même un peu particuliers, les épouses participaient au banquet. Chez les Grecs, jamais, elles restaient chez elles. Et il y avait des dames au banquet grec, mais ce n'étaient pas des épouses, si vous voulez. C'est des Grecs, par le relais étrusque, que les Romains adoptèrent aussi l'alphabet, un alphabet d'origine grecque, l'alphabet corinthien, venu de Corinthe, qui évolua pour donner l'alphabet dont nous nous servons toujours de nos jours. La conquête de l'Italie du Sud, et notamment celle de Tarente, pointe de la botte, au début du IIIe siècle avant notre ère, eut des répercussions très importantes sur la culture romaine, parce qu'ils voyaient pour une fois la culture hellénistique pleinement développée. Mais c'est surtout à partir du moment où ils entrèrent, vainqueurs, au cours du IIe siècle avant notre ère, en contact direct avec les principaux foyers de la culture grecque, Athènes et Pergame, en Asie mineure, qu'un mouvement culturel, tremblement de terre, littéralement, se produisit, qui eut d'ailleurs des conséquences mondiales. Tout en conservant leur propre culture romaine, les Romains adoptèrent en littérature, en architecture et dans la vie quotidienne les coutumes et les modèles grecs. Suivant le fameux vers d'Horace, « Vaincu, la Grèce a vaincu son vainqueur ». Rome et l'Italie devinrent des foyers d'art hellénistiques. Les artistes grecs s'y installèrent et les poètes romains commencèrent à adopter l'hexamètre venu de Grèce, qui transformaient leur propre poésie et faisaient d'une certaine manière violence à leur langue parce qu'ils n'avaient pas été prévus pour le latin. En outre, l'hexamètre, comme toute la versification grecque, fut accompagné par une imitation passionnée et ambitieuse de la grande littérature grecque. Une fois le terrible premier siècle avant notre ère, avec son cortège d'horreurs dû aux guerres civiles achevé, nous avons parlé de notre ami Cicéron, sa tête a fini clouée sur une tribune près de l'arc de Septime Sévère sur le forum romain avec la langue de la femme de Marc-Antoine piquée à travers la langue. C'est ça, les guerres civiles à Rome. Donc, une fois cet épisode terminé, la Rome d'Auguste établit une norme artistique d'origine grecque pour le monde entier. Les Romains de la fin du 1er siècle avant notre ère n'adoptèrent pas seulement l'art des cités et des royaumes dits hellénistiques, c'est-à-dire contemporains du 2e et 1er siècle avant notre ère, ils redécouvrirent littéralement ce que les Grecs eux-mêmes avaient en partie oublié. Ils découvrirent l'Athènes classique. On peut dire que les Romains ont en quelque sorte inventé la Grèce, et notamment Athènes et sa culture. Cicéron, notre tragique ami, achetait des manuscrits de Platon et traduisait ses œuvres en latin, en amorçant un mouvement philosophique qui devait conduire en 3 ou 4 générations au néoplatonisme qui fut l'un des mouvements philosophiques les plus fertiles des 5 premiers siècles de notre ère. Vous voyez que l'école de Platon a été suivie par un certain nombre d'écoles philosophiques à Athènes qui donnèrent lieu à une philosophie d'époque hellénistique très vivante, mais qui s'éloignait de plus en plus du platonisme pur. Et c'est Cicéron qui relance à nouveau ce mouvement. La littérature, le poète Horace, adaptait à la langue latine la grande poésie grecque, même en la transformant, par exemple en faisant de grandes poésies chorales, qui étaient faites pour des chœurs, une poésie de table, en quelque sorte intime. C'était une transformation, une évolution de la poésie grecque en latin. Après Lucrèce, une génération plus tôt, Virgile écrivit en hexamètre, comme Homère, et il écrivit précisément l'Énéide, une sorte d'Odyssée et d'Iliade romaine racontant la fuite d'Énée depuis Troie jusqu'en Italie, où il fonde ce qui deviendra peu à peu le nid du peuple romain. Le poète Ovide, quelques 2 décennies plus tard, lui répondit avec ses Métamorphoses, elle aussi écrite en hexamètre, dans lesquelles il raconte l'histoire du monde. Virgile racontait l'histoire du monde à la romaine, c'est-à-dire les origines de Rome. Ovide racontait l'origine du monde du point de vue des transformations célèbres d'humains en minéraux, en végétaux ou en animaux. Il commençait par les grandes histoires de transformation données par les mythes grecs, et finit par la dernière métamorphose qui s'était réalisée à l'époque historique, à Rome, en 44 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire celle d'un mortel en Dieu, celle de Jules César en Dieu Julius. À travers ces 15 livres de métamorphose, il n'a pas seulement spirituellement réécrit l'histoire du monde qui aboutit à Rome, mais Ovide a aussi transmis à la postérité la plupart des grands mythes grecs qui ne seraient pas connus autrement. Vous seriez étonné de voir le nombre de mythes grecs qui ne sont connus que par ce livre, qui est un des livres les plus représentés dans toutes les bibliothèques du monde, aux époques un peu plus anciennes. Sans ce livre, par exemple, le mythe de Pygmalion, que vous connaissez sans doute par le musical My Fair Lady, serait, comme tant d'autres, totalement inconnu. Les architectes d'Auguste reconstruisaient les temples et des maisons de Rome à l'ancienne, en inventant un curieux mélange de style hellénistique, un exemple de style hellénistique classique et archaïque. Ce vaste mouvement ne s'arrête pas là. Retourna même vers la Grèce. Néron fit au milieu du 1er siècle de l'Empire une tournée mémorable en Grèce continentale et aida financièrement ce qui passait aux yeux des Romains pour le berceau de la culture universelle, Athènes, qui n'avait plus aucune importance politique à l'époque. Elle était devenue, c'était un trou, disons-le clairement, mais elle était devenue, et grâce notamment aux Romains, une sorte de Harvard méditerranéen, de campus Condorcet, où la jeunesse dorée venait se cultiver. L'empereur Domitien, finança la reconstruction du célèbre sanctuaire oraculaire de Delphes, et ainsi de suite. Les Grecs, les Romains réinventent la Grèce classique. Le prestige de Rome rayonnant sur le monde entier, les formes artistiques qu'elle avait promues depuis le retour de la paix se répandirent dans tous les pays qui n'étaient pas encore marqués par l'hellénisme. Autrement dit, vers la Gaule, l'Espagne, la Germanie, la Bretagne, que nous appelons grande, et aussi vers l'Afrique du Nord, qui avait cependant déjà été marquée dès le IIe siècle avant notre ère, sous les Numides, par l'hellénisme. Il n'est donc pas faux de dire que c'est par les Romains que s'est faite l'hellénisation du monde, et que la culture est marquée jusqu'à nos jours par la culture et la science grecque. Le Moyen-Âge persan, arabe, puis occidental, a recueilli cette culture, malheureusement déjà malmenée par les désordres des siècles obscurs qui ont vu l'effondrement du pouvoir romain, et aussi malmenée par la fragilité des médias antiques, le livre notamment. Les beaux livres étaient des rouleaux fabriqués de papyrus, et ils étaient extrêmement chers et fragiles. Et avant le vaste mouvement de sauvetage et de transcription de ces livres dans des codex, des codices, écrits sur parchemin, c'est-à-dire des livres comme les nôtres, une partie de la littérature antique avait déjà irrémédiablement disparu. Et pourtant, nous ne sommes qu'au 4e, 5e siècle de notre ère. On peut dire qu'au 6e siècle, il n'y avait pas plus que nous n'en avons aujourd'hui, à peu près. Si on ajoute ce que les religions monothéistes jugeaient inutile ou pernicieux dans la tradition romaine et grecque, et que pour cette raison, elles négligeaient de recopier ou détruisaient carrément, on mesure le désastre. Et malgré cela, la culture romaine, sous sa forme hellénique, a durablement marqué le monde. Nos villes, nos sciences, nos littératures se fondent sur elle. On mesure ici l'importance qu'a représentée l'unification du monde sous Rome. Ce superpouvoir définit une culture d'empire, pour ainsi dire, une culture qui exprime sa puissance et sa prétention à la primauté. La culture de l'Empire romain devint la culture unique de toutes les manifestations du pouvoir politique, à quelque niveau que ce fût. Car toutes les élites, même les plus endettées, voulaient imiter Rome et l'expression artistique du pouvoir romain. Ces bâtiments caractérisèrent depuis les deux derniers siècles, avant Jésus-Christ, le style de vie méditerranéen. Bref, celui des gens chics et bien établis dans le monde entier. Et c'est sur ce point que l'on voit aussi que l'hellénisme ne fut pas seulement repris et en partie réinventé par les Romains, mais qu'il fut aussi développé par eux. Le poète Virgile fait dire dans son Énéide au père d'Énée, l'ancêtre des Romains, que les autres peuples ont des talents divers, mais que le propre des Romains est de dominer le monde, comme si c'était leur seule qualité. La caractérisation n'aurait pas déplu aux Romains, même s'ils l'auraient formulée autrement. C'est toutefois oublié que les Grecs s'intéressaient autant que les Romains au gouvernement et à la guerre, et que les Romains ne se désintéressaient nullement des arts et de la science. Une grande partie des ouvrages scientifiques grecs furent en fait écrits dans le monde romain, à l'époque romaine, et sous l'impulsion des Romains, et par des Romains. Romains, comme je vous les ai définis. Nous sommes fascinés par la fraîcheur des textes grecs parce que ce furent les premiers en Occident à atteindre ce niveau intellectuel. Mais l'histoire a tourné et les descendants des rudes et austères romains du VIe siècle ont fait leur cette culture et certains ont participé à son évolution. Revenons aux bâtiments, justement, dont Rome a inondé le monde. Aucune place publique ne pouvait manquer d'être flanquée d'une basilique, autrement dit d'une place couverte, où se déroulaient indépendamment des conditions climatiques, les activités publiques, les procès, les meetings, les affaires, les cours même universitaires. Aucun temple ne pouvait se passer d'un porche reposant sur des colonnes et d'un portique qui rehaussait spectaculairement sa dignité. Le Panthéon, par exemple, est le seul temple romain toujours debout et intact à Rome. Aucune cité ne pouvait se passer de thermes. L'un des bâtiments les plus complexes de l'époque qui atteignit la perfection au cours des quatre premiers siècles de notre ère et qui devint quelque chose comme nos centres commerciaux, si on y ajoute toutefois la pratique du bain et aussi des activités cultuelles, car les bains comportaient aussi des bibliothèques et des salles de conférences. Enfin, pour pousser les cités à se ruiner encore un peu plus, il y avait aussi le cirque et l'amphithéâtre. Un cirque ne coûtait pas si cher, un cirque pour les courses de chars, puisqu'il pouvait à la limite être aménagé, comme à Rome, sur une bande de terrain bordée d'une levée de terre, et entre deux collines, et puis peu à peu, on ajoute des choses. Quand on le construit d'une pièce, ça coûte déjà beaucoup plus cher. Mais depuis que Vespasien et ses fils avaient fait construire en 70, à partir de 70 de notre ère, à l'emplacement de l'ancien palais de Néron, un gigantesque édifice, l'amphithéâtre Flavien, notre Colisée, pour accueillir les chasses et les combats de gladiateurs, tous désiraient, dans tout le monde entier, de Gibraltar à la mer Noire, posséder le même amphithéâtre aux dépens des finances municipales, vous vous en doutez. Et l'on trouvera des petits colisées, vous les avez vus défiler à Arles, à Nîmes ou à El Jem, en Tunisie. Encore aujourd'hui, des édifices sportifs et des lieux de corrida imitent cette forme, qui est une invention de l'époque impériale. Les architectes avaient réuni deux théâtres, c'est-à-dire deux demi-cercles de gradins pour spectateurs, ce qui s'appelle à proprement dire un théâtrum, amphithéâtrum, deux théâtres, pour créer une arène. Ce sont donc deux théâtres de type hellénistique qui ont été réunis pour enfanter un nouveau bâtiment hellénistique. Parfois, les bâtiments étaient moins complexes, sans doute parce que les autorités municipales étaient plus sages ou parce qu'elles n'avaient vraiment plus les moyens, comme ici à Mécène, dans le Péloponnèse, où l'on a aménagé le stade pour jeux athlétiques à la grecque en amphithéâtre. C'est l'occasion aussi, de nouveau, pour dissiper un autre malentendu. Les Romains sont censés avoir été ces gens cruels qui prenaient du plaisir à voir des gladiateurs se massacrer ou risquer d'être dévorés par des fauves. Passons sur le fait que les jeux de gladiateurs faisaient sans doute moins de victimes qu'on ne le voit à Hollywood, car ces professionnels coûtaient extrêmement cher, plus cher que Brad Pitt et d'autres vedettes de la scène. Ce qui peut nous choquer plutôt, c'était des mises en scène artistiques, entre guillemets, mythologiques, d'exécution capitale, Actéon déchiré par un ours ou des chiens, etc. Mais c'était des exécutions, et cela, semble-t-il, pendant les pauses des jeux proprement dit, quand les Romains étaient allés manger un sandwich et boire un verre de vin. Mais ce que je voulais dire, c'est que, peu importe ces mœurs d'amphithéâtre qui ne sont pas très ragoûtantes, c'est que les Grecs, autant que les Romains de l'époque, appréciaient les gladiateurs et leurs chasses et combats, au point même de transformer non seulement des pistes athlétiques, comme à Mécène, mais même de transformer des théâtres où l'on jouait Sophocle et Aristophane en arènes de combat. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ainsi, Rome a créé un langage culturel unifié sous deux expressions, grecque et latine. Les langues et les cultures locales, si elles n'étaient pas arrivées à un haut développement culturel, disparurent comme langues de culture. Sous le poids politique de Rome, en raison de sa puissance insolente, les langues et les cultures d'Italie avaient déjà disparu au début de notre ère. En Occident, le même phénomène se reproduisit en grande partie. Même si l'on trouvait encore d'ici de là des locuteurs des langues celtiques en Gaule, le latin s'imposa très rapidement comme langue de tous, du moins comme langue de culture. Et les langues postérieures se sont développées à partir du latin dans tous les pays de langue romane, et non à partir du celtique. Ceci ne se produisit pas dans les zones non occupées par les Romains, le nord de l'Angleterre ou la Germanie. En Afrique du Nord aussi, le latin s'imposa comme langue de culture à côté du libique et du néo-punique, qui continuaient cependant à être parlés dans les milieux populaires. Mais la langue de culture restait le latin. À l'Est, c'est le grec qui était la langue de tous, même dans les zones qui parlaient auparavant araméen. En Égypte, la traditionnelle séparation entre Égyptiens autochtones et Grecs entraîna la survie du démotique qui devint peu à peu le copte actuel, et plus généralement à l'Est, dans les zones de frontières, c'était plusieurs langues qui étaient parlées. La domination d'une langue, comme dans l'Ouest de l'Empire, était moins prégnante. Une fois de plus, où sont les Romains? Ils parlent grec. Avec les langues grecques et latines, une haute culture se diffusa, une culture qu'on pourra appeler impériale ou romaine, puisqu'on la trouva d'un côté comme de l'autre du monde d'alors. C'est par les Romains que l'Iliade et l'Odyssée, les historiens, philosophes ou mythes grecs se sont répandus dans le monde. C'est par les Romains que le monde entier disposait de deux langues qui permettaient à tous de communiquer. Et au-delà de la chute de l'Empire, c'est le latin et la culture latine qui marquèrent l'Occident jusqu'à nos jours. Jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, les documents publics, vous le savez, et même les correspondances européennes s'écrivaient en latin. Et ce n'est que peu à peu que les langues vernaculaires, populaires, s'imposèrent comme langue de culture. Je passe sur un certain nombre de choses concernant les statuts individuels et je termine par un dernier point. L'unification du monde occidental a été l'un des traits majeurs de la civilisation romaine. Elle a rendu possible l'échange est-ouest, nord-sud, entre les hommes et les idées. Cette ouverture du monde pendant 3 siècles a eu un autre effet dont les conséquences nous déterminent encore aujourd'hui. C'est du plan religieux que je parle. Nous sommes tous romains du point de vue religieux. Je comprendrai que vous soyez d'abord sceptique en entendant cette affirmation. Laissez-moi vous expliquer, donc, pour terminer, ce que je veux dire. Nous ne sommes pas romains en ce sens que nous aurions toujours la même religion que les Romains, dont Carlo a dit quelques mots, du moins ceux du premier millénaire de l'existence de Rome. Cette religion était en effet très différente de celle d'aujourd'hui. Si nous sommes des Romains du point de vue religieux, c'est en raison d'une transformation de la vie religieuse en Méditerranée. En raison de la circulation des hommes et des idées, une secte du judaïsme qui s'est développée peu avant la terrible guerre entre les Juifs et les Romains de 66 à 70 après notre ère s'est répandue dans les villes de l'Asie mineure et peu à peu aussi à Rome et dans les villes de l'Ouest. Il s'agit bien sûr du christianisme.